par un module qui s'intéresse au travail en dehors de la classe, hein, premier point, et deuxième point, le travail en dehors de la classe dans des dispositifs d'aide à l'étude. Et en fait, faire ce choix, ça nous a semblé absolument intéressant dans le cadre justement qui a été donné ce matin, parce qu'à la fois, ça permet de rendre compte de manière un petit peu concrète des transformations que nous a présenté Frédéric ce matin, hein, des transformations qui concernent l'évolution du métier enseignant, et ça nous permet aussi de peut-être d'aller réfléchir sur ces gestes de métier et sur la manière dont les enseignants mobilisent, hein, de la ressource pour aller soit puiser dans l'histoire du métier des gestes et des ressources anciennes qu'ils pourraient retravailler pour rendre compte des situations inédites de travail dans lesquelles ils se trouvent, soit retransformer ces situations. Voilà. Donc, le premier élément que je voulais présenter avec vous, hein, c'est dans le cadre de ces transformations, je crois qu'il y a un point important, c'est notamment, on va prendre l'exemple du professeur référent, et dans le cadre de ce professeur référent, on va prendre une des multiples prescriptions, hein, en tous les cas la prescription infinie qui lui est faite à propos de l'aide ou de l'accompagnement ou du soutien qu'il doit apporter. Alors qu'il doit apporter à qui? Eh bien qu'il doit apporter, je dirais, à différents publics, hein, et pas simplement des élèves. Donc, il doit apporter cette aide à différents publics, et je dirais selon au moins trois niveaux d'intervention du professeur référent. Le premier niveau, c'est le niveau qui se situe au niveau de son service d'enseignement, c'est-à-dire dans sa classe, c'est-à-dire avec ses élèves et dans sa discipline. Et là, effectivement, je ne reprendrai pas, hein, mais rien que cette dimension-là mériterait tout un long travail de réflexion concernant l'aide et l'accompagnement qu'il doit apporter au moment où il doit organiser des conditions de l'étude favorables pour permettre la réussite de tous les élèves. Cette réussite de tous, sachant que, comme on l'a vu ce matin, hein, ces élèves sont certains en difficulté, certains sont difficiles, certains sont incontrôlables, certains sont déscolarisés ou en voie de l'être. Donc là déjà, on voit que cette question de l'aide au sein même de sa discipline dans sa classe est déjà en soi très problématique. Comment l'enseignant s'y prend? Que doit-il faire? Que signifie la pédagogie différenciée? Donc là, on voit déjà ce premier niveau des questions qui seraient intéressantes de travailler, sur lesquelles on va revenir. Mais le professeur référent, je dirais, dans le même temps, parce que son service d'enseignement, selon les textes, est réduit normalement, je dis normalement parce qu'ici, il y a plusieurs collègues et il y a des situations très, très diverses, hein. Normalement, il doit 9 heures d'enseignement dans sa discipline, le reste de son temps étant divisé dans d'autres occupations, notamment dans les interventions pédagogiques. Dans ces interventions pédagogiques, il est là aussi supposé intervenir dans tout un ensemble de dispositifs, là encore, qu'on appelle des dispositifs d'aide, et selon qu'il est en DAI, en PPRE, en PPRS, en ATP, hein, vous voyez tous ces sigles qui font partie de la profession, hein, tous les cas de cette nouvelle profession, de ces nouvelles professionnalités, et bien là aussi, il va devoir non plus cette fois-ci réfléchir à une aide et à un accompagnement sur un grand groupe, mais cette fois-ci sur un groupe restreint d'élèves, et qui plus est, des élèves ayant des besoins particuliers. Quel type de besoins particuliers? Selon que vous êtes dans un dispositif de DAI et que vous êtes professeur de mathématiques, par exemple, vous allez devoir réfléchir, comme notre collègue de kiné, il a beaucoup été cité, hein, donc Jean-Pierre, ici présent. Donc voilà, par exemple, il va être amené, hein, à réfléchir sur la manière à la fois d'organiser les conditions de l'étude, par exemple des critères de divisibilité par trois, et comment, avec ses élèves non francophones, il va aussi devoir apporter une aide sur la maîtrise de la langue. On est en PPRS, on est responsable de ce dispositif, on est donc préoccupé par des questions de rupture scolaire. Comment, en tant qu'enseignant d'une discipline en particulier, on vient aider des élèves et soutenir des élèves justement dans la réappropriation d'une certaine forme scolaire et pour essayer de maintenir la présence dans l'école. En étant PPRE, on doit là aussi envisager une aide et un soutien qui va venir s'inscrire dans un programme. Ce programme devra être personnalisé et en plus de cela, il devra également être partagé, travaillé, disposé avec le concours des familles, c'est-à-dire que dans son travail d'enseignant, eh bien, l'enseignant devra également aussi travailler, non seulement en vue de définir un certain nombre de difficultés, mais de voir aussi au niveau des familles comment il va travailler dans le sens d'une aide aux élèves. Et puis, un autre niveau, hein, où là aussi l'aide et le soutien des enseignants sont sollicités, c'est au niveau des animations pédagogiques qu'il peut et doit apporter. Et là, ces animations pédagogiques ne portent pas simplement sur des groupes d'élèves, grands groupes ou groupes restreints, mais elles portent sur d'autres publics. Sur d'autres publics, hein, ce sont des publics soit d'enseignants, soit des publics, des partenaires, je dirais, qui sont à proximité de l'école. Et donc là, vous voyez, j'ai récupéré tout simplement une fiche de poste d'un professeur référent. Et j'ai regardé le nombre de fois où, dans le cadre des animations pédagogiques, il lui est demandé d'apporter une aide. Alors, voyez par exemple l'aide à des élèves, là encore, hein, aide sur un dispositif, je dirais sur un fonctionnement, hein, de pilotage. Donc, par exemple, il doit mobiliser, là aussi, un travail et des compétences, probablement, autour de l'aide à l'évaluation et au suivi personnalisé des élèves. Il doit également travailler dans le sens d'une coordination pédagogique des différents dispositifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Probablement permettre une plus grande lisibilité de ces dispositifs de l'étude, à la fois pour les collègues, à la fois pour les élèves, probablement aussi pour les familles. Et pour les collègues, dans le groupe d'appui pédagogique, hein, avec lequel nous travaillons, donc ici sont présents un certain nombre de professeurs, hein, une des premières activités que nous avons eues, c'est de faire un recensement, un listing, de tous les dispositifs d'aide à l'étude qu'il existe dans chacun des établissements des professeurs du cadre. Et là, quelle n'a pas été notre surprise, que premièrement se rendre compte que les enseignants qui sont présents dans leur propre établissement étaient, je dirais entre guillemets, ignorants d'un bon nombre de dispositifs prévus pour les élèves. Voilà, donc quand on parle de lisibilité, je crois que c'est aussi au niveau des enseignants qui sont présents dans l'établissement. Autre type d'aide, vous voyez, hein, c'est au niveau des assistants pédagogiques, on aura l'occasion d'y revenir demain. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un enseignant a en charge la coordination des assistants pédagogiques? Qu'est-ce que cela veut dire, peut-être on le verra également avec Luc, que ces professeurs référents doivent aussi participer de façon un peu, énergique au niveau des conseils qu'ils peuvent donner, à qui? Des professeurs entre guillemets demandeurs et des équipes qui le souhaiteraient, mais également en prévoyant un accompagnement au niveau des néo-titulaires. Voilà, j'arrête là ma liste, mais vous voyez que je crois qu'on a ici une illustration assez intéressante, hein, de l'évolution du travail du professeur dont parlait ce matin Frédéric, simplement, que j'attire votre attention, simplement sur ce point-là qui est le point de l'aide. Donc, effectivement, ce matin, on a parlé d'une extension des tâches. Bon, là, on voit bien que cette extension des tâches, elle se fait à la fois dans la classe, et déjà dans la classe, il y a une extension et un alourdissement des tâches. Elle se fait également en dehors de la classe, dans des dispositifs hors de la classe, en dehors de la classe. Elle se fait dans l'établissement, mais également en dehors de l'établissement, puisque le collègue que l'on va voir tout à l'heure à travers la vidéo, hein, c'est aussi quelqu'un, par exemple, qui a en charge la liaison CM2-6e, et qui doit régulièrement rencontrer les collègues du CM2, donc sortir de l'établissement, éventuellement aller dans la classe du CM2, voir comment les enseignants s'y prennent pour enseigner, là, en l'occurrence, les mathématiques, et comment on peut établir des ponts entre le primaire et le collège. Voilà. Tout cela, évidemment, sur son temps, hein, de 18h. Alors, intensification des tâches, là aussi... ce matin à expliquer un petit peu cette intensification, hein, à double sens, hein, une intensification au sens, je dirais, de cet alourdissement et d'un allongement de la durée de travail, hein, mais pas que ça, une intensification aussi au sens de ce que cela coûte et des effets en retour de ce travail en regard des prescriptions nombreuses, multiples, parfois contradictoires, et qui probablement, ont tendance légèrement, hein, c'est peut-être un euphémisme, à opacifier, en tous les cas à ne pas rendre complètement visible ce que l'enseignant a à faire et comment il doit le faire. Alors, c'est vrai du côté des enseignants, c'est évidemment vrai du côté des élèves, parce que les élèves, dans le cadre de cette politique, je dirais, ambitieuse et généreuse, hein, se voient bénéficier de tout un ensemble de dispositifs, là aussi d'aide à l'étude, Et si on ne file, comme tout à l'heure le professeur pour la question de l'aide, si du côté des élèves, on ne regarde qu'un seul point, le point par exemple du travail personnel. Pourquoi je prends ça? Eh bien parce qu'on sait parfaitement depuis très longtemps et depuis toute la somme des travaux en sociologie, hein, que le travail personnel, c'est aujourd'hui un des vecteurs de la réussite scolaire. Hein, Glassman a beaucoup écrit sur ces questions-là et par exemple, il a montré combien aujourd'hui il fallait plus que faire ce que l'école demande de faire pour réussir à l'école. Donc si on ne prend que cet exemple du travail personnel de l'élève, voilà ici hein, toute une liste de dispositifs d'aide à l'étude, je dirais même probablement un empilement de ces dispositifs, en tous les cas un empilement qui va depuis le primaire jusqu'au secondaire. Le petit dernier, hein, l'aide personnalisée au primaire, qui est donc la redistribution des 60 heures du samedi matin, redistribuer normalement 4 fois dans la semaine, 4 fois une demi-heure, pendant lesquelles les enseignants sont supposés venir en aide aux 15% d'élèves en difficulté. Des élèves en difficulté, oui, mais pas trop, puisque ceux qui sont trop en difficulté, normalement jusqu'à cette année, vont travailler avec des enseignants du RADET, c'est-à-dire du réseau d'aide aux élèves en difficulté. Je dis jusqu'à cette année, puisque normalement, d'ici juin, le RASET disparaîtra. Ce qui pose, vous voyez, dans notre préoccupation, hein, aussi la question de ce que vont faire les enseignants. Est-ce qu'ils vont devoir se transformer en je pense à hier, il y avait un jeune PE2, donc professeur stagiaire, hein, qui disait finalement le concours, il va falloir faire 7 ans. Alors quelqu'un a dit, ah, dans 7 ans, alors on va être des docteurs, peut-être des docteurs du traitement de la difficulté scolaire, c'était leur grande peur. Aide personnalisée au primaire, aide au devoir, hein, toujours sur la même question, et l'aide au devoir sous couvert de l'accompagnement éducatif. Bien. Mais en même temps, pendant que vit cet accompagnement éducatif au collège, pendant le temps qu'il vit au primaire, il y a aussi toutes les activités périscolaires. Et dans ces activités périscolaires prises en charge par exemple, la commune hein, ou la ville, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'aide au devoir. Je continue dans mon empilement. Les études dirigées ou guidées, les questions de tutorat, les questions d'aide méthodologique, l'ATP, aide au travail personnel. Et ce que je veux dire par là, en montrant ces différents dispositifs, c'est qu'ils existent très souvent en même temps dans le même établissement scolaire. Ce qui, bien entendu, pose la question des élèves qui bénéficient de ces dispositifs. Quelle lisibilité cela a-t-il pour eux d'être en accompagnement éducatif et en même temps d'être en ATP, mais éventuellement d'être aussi en tutorat ou d'être en aide individualisée. Plus, je passe les PPRE, évidemment, et d'autres projets, je passe pour ne rester que sur cette question-là. Alors, évidemment, on n'est pas en train de faire ici un procès, hein, et que l'école de la République s'intéresse à la question de l'étude aidée est une évidence qu'ici, je crois, personne ne conteste. Et de plus, je crois qu'on ne peut être que très favorable à la mise en place de dispositifs d'aide à l'étude, de manière évidemment à ce que cette question ne soit plus laissée simplement à l'entière responsabilité et des élèves et de leur famille, et qu'ensuite on n'ait pas à déplorer soit qu'ils aillent des dispositifs, par exemple, de type associatif, hein, coup de pouce, PACAM, et que l'on déplore finalement la non-compétence des gens qui vont intervenir dans ces questions, ou éventuellement qu'on déplore la prolifération de la dimension privée et commerciale à Cadoumia. Hein, voilà. Donc évidemment, on ne peut être que très favorable à ce qui est en train de se mettre en place, sauf que rien, ou presque rien, ne dit aux enseignants comment très précisément dans ces dispositifs, ils vont devoir s'y prendre pour apporter cette aide et ce soutien. Quelles tâches faire? Combien de tâches? Et quelle tâche pour quelle compétence? Ce matin, Frédéric a beaucoup parlé de l'autonomie, de l'individualisation. Bon, quelle tâche pour développer quel type de compétence chez les élèves? Mais je dirais, ça pose également la question au niveau de l'enseignant, quelle tâche, cette tâche-là, demande quelles compétences à développer, à modifier, à transformer au niveau des enseignants? Qu'est-ce que cela suppose, hein, en plus de l'enseignement de leur discipline? Alors, évidemment, on ne va pas répondre à l'ensemble de ces questions. Hein. L'idée étant ici de partir d'une petite étude de cas, hein, qu'on a constituée avec des collègues du collège Vallon des Pins, Donc Frédéric vient de partir parce qu'il avait une réunion importante. Voilà. Donc ces trois jeunes collègues, on a bien entendu les autorisations de montrer ces extraits. Trois jeunes collègues qui sont donc Alban, Virginie et Frédéric, ils sont dans le collège Lalonde des Pins. Tous les trois, enfin, Alban et Frédéric sont professeurs référents. Frédéric est responsable, en tous les cas il était au moment où on a travaillé, était responsable de ce dispositif ATP, aide au travail personnel. Alban, qui est un jeune professeur, elle est responsable, professeur référent du DAI. Virginie est responsable d'une classe à projet sportif. Mais chacun de ces professeurs, évidemment, exerce au sein même de sa discipline dans sa classe, et chacun de ces professeurs intervient dans une somme plus ou moins importante de dispositifs dont on a parlé. Voilà. Donc, on va peut-être regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau de la manière dont ces enseignants tentent de gérer ce dispositif d'aide à l'étude. Alors, on peut commencer par Alban. Alban, au moment où on a démarré ce travail, est donc un jeune professeur, hein, elle a une année d'expérience, et en fait, elle est assez embêtée parce qu'elle aimerait bien pouvoir échanger avec ses collègues et échanger pour avoir un peu des ficelles, un peu des trucs, des trucs qui marchent, pour savoir ce qu'elle va faire dans ce dispositif. Sa grande peur, sa grande crainte, étant d'accueillir une quinzaine ou une vingtaine d'élèves régulièrement qui viendraient sans travail à faire, sans rien de marqué sur le cahier de texte. Donc l'extrait retenu correspond au tout début de la séance, c'est-à-dire au moment où elle vient de faire entrer les élèves, où elle circule dans les rangs, elle a vérifié que les cahiers de texte se sont ouverts et qu'il y a bien du travail à faire. Donc là, certains élèves disent qu'ils vont faire apprendre des leçons en anglais, d'autres plutôt en SVT, certains préféreraient faire du français, et puis d'autres l'interpellent en leur disant qu'ils n'ont rien à faire, ce sont des élèves de la même classe, mais pas forcément ces élèves à elle. Voilà. Donc un tout petit extrait qui dure 2 minutes et demie, 3 minutes. Cet extrait, bon, on aperçoit là visiblement Alban, hein, qui tente de faire de ce dispositif d'aide à l'étude une espèce d'espace-temps, hein, dans lequel les élèves accueillis, à partir duquel les élèves qui sont accueillis finalement vont pouvoir faire ce que d'autres font chez eux avec leurs parents. Et donc il n'est pas étonnant, hein, de la voir finalement faire ce que certains parents feraient avec leurs enfants chez eux, c'est-à-dire vérifier le cahier de texte, s'assurer qu'il y a des leçons et que ces leçons sont apprises, s'assurer que les devoirs sont faits, contrôler. Et donc elle va essayer là de donner une espèce d'habitude de travail qu'elle croit être efficace, en tous les cas pour permettre des gestes d'étude efficaces et pour s'acquitter de son travail personnel. Et peut-être qu'on reviendra sur cette idée, hein, de l'illusion. C'est pas en une heure d'ATP que tu vas apprendre tout ça. Vous voyez un petit peu aussi cette illusion que c'est vraiment en classe et devant les yeux de l'enseignant que tout se gère et que tout doit se faire. Hein, comme si la difficulté de passer d'un espace à un autre était aussi une difficulté à la fois pour les élèves, mais bien pour ce jeune professeur à mettre en place et à gérer. Pour ce qui est de Virginie, elle se rapproche un petit peu des manières de faire d'Alban, hein, mais disons qu'elle, on va dire qu'elle entend davantage articuler à la fois le travail collectif et le travail individuel. Et donc c'est ce que l'extrait qu'on a retenu va essayer de montrer, c'est-à-dire un extrait qui est retenu aussi comme Alban, c'est-à-dire au tout début de la séance, elle a fait rentrer les élèves ont sorti leur matériel. Ils ont tous un travail à faire. Ce travail est à faire en mathématiques. Donc, a priori, ça pose un problème, hein, sur cette question de volume. Donc, elle va demander aux élèves de se regrouper et d'essayer d'éprouver entre eux des solutions. Voyant que ça ne marche pas, que certains élèves ne produisent rien, que d'autres ne se sont pas regroupés, finalement, elle décide de regrouper ces quelques élèves qui ne sont pas ses propres élèves là non plus, hein, et de les regrouper autour d'une question. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans ta leçon et qu'est-ce que vous devez faire ? Donne quelques explications. Voilà. Donc Virginie, elle aussi, d'une certaine manière, elle s'intéresse comme Alban aux leçons, aux devoirs de ses élèves, mais contrairement en tous les cas à l'extrait qu'on a vu chez Alban, où elle va tenter d'apporter une aide personnalisée, individualisée, selon les besoins des élèves, hein, chez Virginie, on a cette question de comment elle va constituer un collectif et comment ce collectif de travail est à la fois même de prendre en charge une partie des questions scolaires, des questions que se posent les élèves, et comment dans ce collectif, il est aussi porteur d'une espèce de mémoire, à la fois collectivement constituée et organisée, comme l'a dit Frédéric ce matin, cette mémoire qui est à la fois la mémoire du dispositif ATP, je ne sais pas si vous entendez bien, mais elle dit « rappelle-toi qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois à l'ATP », mais une mémoire qui viendrait s'appuyer sur cette espèce d'écrit de référence qui est la leçon, de manière à pouvoir commencer à établir des liens entre ce que l'on fait dans ce dispositif d'ATP et finalement ce que l'on fait dans le cours de mathématiques. Alors, cette question des liens, on y repensera tout à l'heure, hein, elle doit être à la charge de qui ? À la charge de l'élève ? À la charge des enseignants ? Si elle est à la charge des enseignants, qu'est-ce que cela suppose comme tâche ? Qu'est-ce que ça suppose comme travail, hein, à donner à faire aux élèves ? Voilà. Fred n'est pas très éloigné de cette manière de faire, sauf que pour lui, il considère que l'ATP, finalement, doit être un lieu qui va permettre aux élèves de se débrouiller tout seuls lorsqu'ils sont chez eux et que personne ne peut les aider. Et donc lui, son idée, c'est plutôt de réfléchir à partir d'outils qui se produiraient dans l'ATP et à partir duquel on s'en
fait. C'est pas important de l'éliminer de l'interrogation.
Donc là, excusez-moi, donc, contrairement aux deux précédentes, c'est la fin de la séance ATP. Donc les élèves ont travaillé. Les élèves ont travaillé, ils ont particulièrement travaillé à partir des fiches méthodologiques qui sont essentiellement élaborées, je dirais, par le professeur et parfois retouchées dans la relation et la négociation avec les élèves. Et donc là, il va prendre en charge une question qui lui paraît une question essentielle, sinon centrale, concernant l'aide aux devoirs. Comment on s'y prend ? Quelles sont les étapes importantes pour préparer une interrogation écrite ? Voilà. Et donc là, on est quasiment en fin de séance. Et dans ce travail d'ATP. Hein. Donc, on voit bien ici une manière un peu différente de gérer ce dispositif. Donc, vous voyez ici que chez Freud, hein, visiblement, il est nettement moins important de s'inquiéter des leçons et des devoirs que les élèves ont à faire que de les outiller avec une méthode, des techniques, et des techniques qui seraient suffisamment généralisables, qu'elles pourraient s'approprier, qu'elles pourraient s'appliquer à l'ensemble des disciplines. Donc, je ne sais pas si vous entendez très bien, mais donc, il essaye là de donner des techniques. Cette technique, c'est au niveau de la correction. Est-ce que vous avez pris un stylo d'une autre couleur ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions ? Donc, vous voyez là aussi comment on vient à travailler sur des questions, hein, anciennes du métier, c'est-à-dire comment permettons à des élèves, finalement, de s'acquitter de son travail personnel. C'est aussi viser une certaine autonomie. Par quoi passe cette autonomie ? C'est d'avoir, comme ça, des règles générales de l'étude, transférables à l'ensemble des disciplines, pas nécessairement qui vont sur les contenus, mais qui vont sur une espèce de dire, et où l'élève serait en capacité de dire ce qu'il fait. Bon, on verra peut-être tout à l'heure, hein, les effets que ça a sur les élèves et comment les élèves aussi se sentent très concrètement par rapport à une interrogation de mathématiques ou d'histoire, et comment ce type d'aide peut les aider ou au contraire, finalement, augmenter un petit peu l'opacité des injonctions et de l'obligation scolaire de travailler. Ici, on a trois manières de faire différentes. Hein. Plutôt une manière qui va s'attacher à la réalisation des devoirs et quelque chose qui serait peut-être plus près de type associatif. Hein. On a chez Virginie plutôt une préoccupation qui est une préoccupation disciplinaire, avec peut-être un soutien et un approfondissement. Et puis, on a plutôt avec Frédéric quelque chose qui porte sur une aide méthodologique. Ce qu'il faut bien entendre ici, c'est que, un, il n'est pas dans notre intention, évidemment, de hiérarchiser ces différentes manières de faire et de se dire, finalement, est-ce qu'il y en a une, à partir de ces 3 ou 4 minutes, hein, est-ce qu'il y en a une plus efficace que l'autre ? Mais, un, d'abord de noter que chacune de ces manières de faire, si différentes soient-elles, sont toutes des actions possibles qui sont décrites dans les prescriptions comme étant des manières tout à fait acceptables et envisageables pour conduire le travail d'aide aux élèves pris en charge par des professeurs, mais également pris en charge par des assistants pédagogiques, parce que ce qu'il y a d'intéressant à voir aussi là-dedans, c'est de voir que les assistants pédagogiques ont, semble-t-il, les mêmes prescriptions d'aide et de soutien par rapport aux élèves et dans les mêmes conditions. Donc l'idée étant ici, non pas de hiérarchiser ces pratiques, mais de voir comment, à partir de ces manières différentes, quelles ressources on va puiser pour, je dirais, conduire ce dispositif de manière efficace, et comment ça renvoie à un certain nombre de questions. Alors ces questions, on va les renvoyer sur le travail de groupe. Donc, en professeur, on vous a fait une photocopie de ces petites questions, qui sont des pistes, évidemment, à partir desquelles vous pouvez travailler. Donc, excusez-moi, je reviens ici, des questions selon quelques grandes orientations. Une première orientation, c'est au niveau des élèves. Que signifie aider les élèves? Et dans cette question-là, je crois qu'il serait bon de réfléchir à quels élèves pour quel type de dispositif. Bon, ça c'est un premier type de question, étant entendu aussi qu'on a déjà un petit peu réfléchi sur ce que signifiaient les élèves en difficulté. Donc, quels élèves pour quel type de dispositif? Que signifie dispenser, puisqu'on est toujours dans cette histoire d'aide, mais on laisse tomber, en fait, je veux dire, on ne se focalise pas sur l'aide au travail personnel, mais sur le dispositif d'aide en général. Que signifie une aide personnalisée qui est plutôt au primaire et une aide individualisée qui est plutôt au collège? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce qu'il y a quelque chose de complémentaire? Est-ce que c'est complètement différent? Quel est le rapport entre ces deux types d'aides prescrites? Et est-ce que cela a un sens de les distinguer? En tous les cas, qu'est-ce que ça implique au niveau des enseignants et des élèves? Quelle est la place du collectif dans l'aide individuelle? On a un peu abordé la question, on voit chez Virginie comment elle tente de mettre en œuvre ce collectif et de réinstituer ensuite la place de l'individuel. Au niveau de ce travail en dehors de la classe, qu'est-ce que cela implique et qu'est-ce que cela d'abord signifie au niveau du travail du professeur? Que fait le professeur dans un dispositif d'aide qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut plus faire dans sa classe, mais qui par ailleurs justifie cette prolifération des dispositifs? Qu'est-ce qu'on a jugé utile qu'il ne pouvait plus faire dans la classe et qui justifie la mise en place de ces dispositifs? Et réciproquement. Mais ces questions-là impliquent également qu'on regarde la question des liens. C'est-à-dire, quels sont les liens qu'il y a entre chacun de ces dispositifs d'aide, mais également, quels sont les liens entre chacun des dispositifs avec la classe? Comment se fait le retour en classe de manière à ce que ça soit profitable aux élèves et qu'ils gagnent en lisibilité, et non pas l'inverse? Moi, je prends le cas d'un gamin de 6e, il a ATP le lundi soir de 4 à 5, mais il a aussi accompagnement éducatif après 17h, où il fait aussi de l'aide aux devoirs. Et puis il est aussi dans le centre social où il va avoir une prise en charge de son travail. Quels sont les liens qu'il fait et comment ça peut être complémentaire et comment ça peut l'aider à gagner en autonomie vis-à-vis de ce travail? Voilà, c'est un petit peu les questions qui sont posées ici. Et puis peut-être une question sur les ressources. On parlait ce matin du métier et peut-être de la défaillance du métier. Quelles sont et de quelles ressources disposent les enseignants pour répondre à cette nouvelle professionnalité, étant entendu ici quand on parle de nouvelle professionnalité, c'est-à-dire de pouvoir travailler comme cela dans différents dispositifs. De quelles ressources les enseignants disposent-ils pour répondre à cette injonction et pour répondre à cette prescription? Avec l'idée, on verra peut-être tout à l'heure, de l'importation du pouvoir, voir comment finalement les collègues ici concernés vont puiser ailleurs d'autres ressources issues d'autres milieux de travail pour répondre à la demande de l'étude scolaire.